Le journal des Outre-mer, et on commence par une avancée pour l'agriculture en Guyane.
Et oui, cette avancée, on la doit au programme Erasmus. Hein, on peut dire ça, au moins c'est une réussite européenne, le programme Erasmus. Aussi, les universités des Antilles et de la Guyane et les lycées agricoles de ces trois territoires pourront désormais travailler ensemble grâce à la labellisation. C'est dur, labellisation à dire, hein, Erasmus, en obtenant une accréditation de consortium dans l'enseignement supérieur. Alors, en partenariat avec l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, et le CIRAD. Le CIRAD, c'est le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique. Nickerson Perdus de la première Guyane en sait un petit peu plus que nous.
Cette avancée dans les faits va permettre aux étudiants de l'université de Guyane ou encore du lycée agricole de Matiti de travailler, d'échanger avec les établissements reconnus de la région. Un travail en commun autour de l'agroécologie. Ce consortium de l'enseignement supérieur ouvre la possibilité de demander des fonds européens dans le cadre du programme Erasmus. La proximité des espèces de plantes, par exemple, est un argument avancé par ces responsables du lycée agricole de Matiti. Autre avancée, les diplômes peuvent désormais être tournés vers l'international. Josiane Saran, directrice de la structure qui regroupe les établissements agricoles de Matiti.
C'est des rencontres, donc ça permet aux jeunes d'aller faire une partie de son cursus dans une université, dans une école de la Caraïbe. Alors la Caraïbe au sens large.
Alors répétez après moi, labellisation.
Labellisation.
Et ben voilà, parfait.
Vous avez vu, hein ?
Allez, pour les ch'tis maintenant, bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ah oui, parce que ça c'est une belle histoire. Entre le charbon du nord de la France et la morue saint-pierraise, on peut dire le mariage de la carpe et du lapin, oui, mais voilà, oui. Il s'agit d'une histoire patrimoniale. Parce que quand le nord de la France chauffait une partie de l'Europe avec le charbon, les saint-pierrais nourrissaient cette même partie avec la morue jusqu'à l'abandon des mines et la pêche à la morue qui ne représente plus grand-chose aujourd'hui. La différence, c'est que le bassin minier, les ch'tis, hein, bilout, eh bien, le bassin minier a obtenu son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Alors, cette histoire est née entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Rheims, Rheims commune au nord de l'Escaut, proche de Valenciennes, à qui on dit bonjour ce matin. Et ainsi, le comité local du patrimoine de Saint-Pierre vient de recevoir la délégation de Rheims. C'est une image, pourquoi ? Et c'est, on imagine pourquoi, tout simplement, pour l'UNESCO. Guillaume Desmalles de la première Saint-Pierre-et-Miquelon était avec eux.
Une intervention humaine liée à une activité économique et un arrêt brutal qui laisse derrière lui un très fort héritage patrimonial. Autour de la table, élus et acteurs associatifs locaux s'imprègnent de cet exemple inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Stéphane Clairaut, député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ils avaient la chance, du moins dans le Nord, d'avoir encore un gros patrimoine bâti. Ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, de plus en plus notre patrimoine disparaît. Il nous reste le bâtiment de l'Aspect, il nous reste ce qu'on a réhabilité à l'île aux Marins. Donc c'est pour ça qu'il y a urgence, si on veut bâtir quelque chose autour de cette valeur universelle qui est la pêche, de conserver ce patrimoine.
Construire un autre regard sur le territoire, rendre les habitants fiers de leur passé, les intérêts d'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO sont nombreux. Aymeric Robin, maire de Rheims.
Il ne faut pas avoir peur de cet engagement humain et de cette aventure collective pour son inscription au patrimoine UNESCO. Ça nous oblige. Ça veut dire que ça nous demande d'être en perpétuel mouvement pour préparer l'avenir à l'appui de cet ADN forte qui a été ici la pêche de la morue.
La mer, certains veulent en profiter dans le plus simple appareil.
Oui. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire, Mathilde ?
Ah bah totalement, oui. Enfin, tout nu, quoi.
Voilà, tout nu et tout bronzé. C'est le cas notamment dans le sud de la Martinique, sur la plage située à Lens-Moustique, dans la commune de Sainte-Anne. Cependant, voilà ce qui s'est passé le week-end dernier. Des membres de l'association Moon y ont mené une opération coup de poing contre les nudistes et le ton est parfois monté. Seulement, voilà, aucune plage n'est ouverte aux nudistes à Sainte-Anne. Des arrêtés d'interdiction avaient été pris par l'ancien maire et le nouveau maire. Alors, plus de précisions avec le directeur de cabinet du maire actuel, Éric Romaille, sur la première Martinique.
Malgré ces deux arrêtés, le phénomène continue à s'amplifier. La commune de Sainte-Anne n'a que deux policiers municipaux pour surveiller 22 km de littoral. Nous avons affiché ces arrêtés sur des panneaux qui ont été arrachés. La mairie seule ne peut pas faire face à ce phénomène qui, semble-t-il, s'étend à d'autres plages du littoral de Sainte-Anne. On peut être adepte du nudisme, mais les citoyens ont aussi le droit de ne pas vouloir être confrontés à cette pratique s'ils ne le souhaitent pas.
José-Emmanuel Lamarque, on se retrouve demain, cette fois pour un journal de géopolitique.
Oui, fort intéressant. On va reparler Brexit.
J'espère.
Mais attention, Brexit côté britannique et surtout côté Buckingham Palace, si vous voyez ce que je veux dire, avec la reine Elisabeth II. Oui, pas bien sûr en présence de la reine, mais en présence de Jean Descartes, qui vient d'écrire sa dernière biographie sur Elisabeth II. 60 et quelques années de règne et ça risque de se terminer avec un Brexit. C'est pas marrant quand même.
Allez, à demain, José-Emmanuel Lamarque.